I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle preview NFL de la saison 2021 avec Touchdown Actu. Une journée, une preview, les New York Giants au menu du jour. À mes côtés, Lucas Vola réajuste ses lunettes. Bonjour Lucas.
Salut messieurs, que les jours passent vite en ce moment.
Exactement, surtout quand on les enchaîne. Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Oui, on l'a dit, on enregistre les previews un peu en avance, donc il nous arrive d'en enregistrer plusieurs à la suite. On ne peut pas toujours se réunir un jour après l'autre tous ensemble à la même heure. Les New York Giants, 6 victoires, 10 défaites la saison dernière, qui ont fait venir Mike Glennon, Corey Clement, Devontae Booker, mais surtout Kenny Golladay, John Ross, Kyle Rudolph pour l'attaque, Zach Fulton aussi sur la ligne. En défense, Danny Shelton est arrivé, tout comme Reggie Ragland ou Adoree Jackson. Au poste de cornerback, Kadarius Toney a été la grosse prise de la draft, le receveur. Et puis, on a perdu des joueurs comme Wayne Gallman, Golden Tate, Cameron Fleming, Kevin Zeitler, Dalvin Tomlinson, Kyler Fackrell ou Jabal Sheard. Grégory, l'opération entourée Daniel Jones continue. 11 touchdowns pour 10 interceptions en 14 matchs l'an dernier. C'est quand même assez pauvre statistiquement. 30e équipe sur les points marqués, 29e à la passe. Est-ce qu'on arrive pas loin de la saison couperet pour le quarterback? C'est la troisième.
Je vais pas anticiper sur la suite de l'émission, mais en tout cas, oui, c'est une saison forcément importante. Alors, on a renforcé autour de lui, j'ai envie de te dire oui et non. Hein. Oui, forcément, il y a des receveurs. J'ai presque envie de dire c'est le seul domaine où on a vraiment considéré, mais là, on est censé parler des points forts. Kenny Golladay, alors on sait qu'il y a une blessure notamment qui a écourté sa saison 2020, donc on sait pas dans quel état de forme il va revenir. On a quand même vu que quand il est en forme, c'est un joueur qui peut prendre feu à n'importe quel moment, et surtout c'est un joueur qui peut être complémentaire les petites dynamites quoi autour de lui, que ce soit des Sterling Shepard ou en effet des Kadarius Toney, des joueurs pour apporter un petit peu plus de vitesse également de leur côté. Donc oui, c'est sûr qu'en tout cas, il y a des profils complémentaires. Gros point d'interrogation, bien entendu, sur le retour de Saquon Barkley. Et ça aussi, ça permettra forcément à Daniel Jones de potentiellement être dans des meilleures conditions. Donc c'est sûr que si on s'intéresse spécifiquement sur le côté de skill player, gros point d'interrogation sur Evan Ingram, qui est un titulaire indiscutable, mais qui a clairement pas rassuré depuis son arrivée du côté de New York. Mais il y a un potentiel, en tout cas, clairement. Et c'est sûr que d'un point de vue skill player, il y a, toujours des armes. En tout cas, il y a des armes à disposition et des armes beaucoup plus dissuasives à disposition de Daniel Jones pour faire quelque chose d'intéressant avec les G-men.
Sur le papier, c'est quand même plutôt rutilant. Hein. Saquon Barkley, Kenny Golladay, Kadarius Toney, Kyle Rudolph, Darius Slayton, Evan Engram, Sterling Shepard. En effet, du côté des skill players, ça a le potentiel d'une très belle attaque, Lucas.
Oui, clairement. Je crois que l'année dernière, c'était parmi les deux pires attaques avec les Jets. Et on a parlé il y a quelques jours de l'attaque des Jets. Et je vous disais que je n'étais pas forcément convaincu de leur recrutement, notamment au niveau des cibles. En l'occurrence, là, pour les Giants, je suis convaincu. Tous les noms que vous avez cités, Kenny Golladay, je trouve que il y a peut-être ce point d'interrogation sur la blessure, mais je trouve qu'il va arriver dans une attaque en étant le receveur numéro un, en attirant beaucoup d'attention. Il y a d'autres joueurs autour. C'est vrai que voilà, si on reste sur les skill players, parce que je sais très bien où veut en venir Greg et on va pas spoiler, mais si on reste sur les skill players, je trouve que c'est alléchant, notamment du côté de l'attaque aérienne. Et d'ailleurs, si je peux faire la transition avec la défense, mais je trouve que la défense aérienne aussi a été pas mal renforcée avec Adoree Jackson, qui a été une coupe un petit peu surprise du côté des Titans et qui a été signée par les Giants. Et je pense que c'est une très bonne signature. Et je pense que voilà, ils se sont renforcés des deux côtés au niveau des airs, que ce soit en attaque et en défense, et ça, c'est très bon signe.
La défense, même dans son ensemble, non, est probablement l'identité de cette équipe, Grégory.
Oui, bah moi, pour moi, je les avais mis, on est parti directement sur l'attaque à raison, parce que la situation autour de Daniel Jones est importante, mais c'est vrai que la défense, pour moi, alors hormis là aussi, je ne veux pas tout spolier, mais hormis forcément un. On va dire que deux tiers de la défense me rassurent énormément et font que pour moi, on n'est pas loin d'avoir une des meilleures défenses de NFL malgré tout, une des plus intimidantes. On prend la ligne défensive, je trouve qu'il y a des profils extrêmement complémentaires avec un Leonard Williams qu'on a réussi à développer. Très intrigué de voir ce que peut donner un Danny Shelton sur l'intérieur de la ligne. Pour remplacer Dalvin Tomlinson, je pense que c'est pas forcément une mauvaise solution. Et puis en effet, le backfield. Alors, Adoree Jackson, c'est toujours la même chose. Il y a eu deux saisons écourtées par des blessures. C'est un joueur qui joue beaucoup sur la vitesse, sur l'explosivité, et forcément avec un corps qui suit moins, ça pardonne rarement. Après, franchement, le reste du backfield, on a vu qu'un Bradbury s'est très bien intégré, plein centre, Ryan, Peppers, McKinney, en plus, on rappelle, deux joueurs de deuxième année qui peuvent faire énormément de choses au sein du backfield. Très franchement, c'est vraiment une escouade qui, je pense, peut poursuivre sur la fin d'exercice 2020 et continuer en tout cas d'intimider pas mal d'attaques, notamment dans la NFCS.
Moi, je te rejoins sur la défense qui pourrait être une des meilleures de la ligue, au sens où il y a du monde devant, il y a du monde derrière. Blake Martinez, il est ce qu'il est au milieu, mais il va quand même abattre un peu de boulot. Il y a vraiment un groupe qui est cohérent. Ils étaient 12e défense de la ligue l'an dernier avec une progression en plus au fur et à mesure. Donc, ils vont être dans une continuité. Donc, clairement, ça va être vraiment pas mal. On parlait dans la pastille de Dallas des équipes un peu mieux construites que les Cowboys. Peut-être avec moins de talent, mais plus cohérentes. En l'occurrence, cette équipe de New York, elle a une vraie défense que n'a pas Dallas. On a parlé des skill players, mais voilà, cette défense, elle a quand même une vraie carte à jouer, surtout dans cette division-là. Après, en effet, il y a un gros point faible. Oui.
En attaque ou en défense? Du coup, moi, le point faible des deux côtés, moi.
Alors, vas-y, donne-moi, on est sur la défense. Quel est le tiers qui te plaisait pas?
Bah, le deuxième rideau, en effet, tu l'as dit, c'est vrai que Blake Martinez, en effet, il peut être très productif en termes de stats sur le run stop, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un joueur qui est extrêmement inconstant d'une action à l'autre et qui peut céder énormément de big play. Ça avait été vu du côté de Green Bay, ça l'est toujours vu du côté des Giants. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être des outside linebackers également dont on n'arrive pas pour l'instant à tirer le maximum. Celui qui donne peut-être le plus de satisfaction, à mon sens, ces dernières années, c'est peut-être Oshane Ximines, qui va être un joueur de troisième année, mais ça reste mince encore d'un point de vue production par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Ça reste un troisième tour de draft. Donc, c'est vrai que l'arrivée d'Aziz Ojulari, le rookie de Georgia, est un énorme espoir, mais il faudra que la sauce prenne, parce que même si, en effet, sur la ligne défensive, on est capable de générer de la pression, si la ligne défensive est dans un jour sans, ça peut être une journée très très longue pour la défense des Giants.
Lucas, ce point faible au milieu de la défense, il est là pour toi aussi?
Oui, il est là. Alors, il a été bien compensé l'année dernière parce que devant, c'était très solide. Derrière, ça l'était aussi. Et du coup, ça cache un petit peu. C'est vrai que s'il faut chercher une ligne qui est un peu en dessous des autres, ce serait celle-là. Après, je pense que il n'y a pas de star, il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot. Il y a un rookie qui arrive, tu le disais, Greg. Pourquoi pas s'imposer comme vraiment le joueur à suivre dans le milieu de cette défense. Maintenant, avec tout ça, je pense que la défense reste quand même très solide parce que les joueurs qui sont là sont moyen plus, on va dire.
Oui, c'est sûr. L'autre point faible, est-ce que il est pire? Là, il est quand même bien pire.
Il est pire.
Voilà, on est d'accord. c'est le premier qu'on aurait dû citer. Ouais, c'est la ligne offensive.
Tu veux que j'enchaîne? Bah écoute, ouais, c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, on attend d'être méga optimiste parce qu'il n'y a rien qui nous laisse penser que ça va être vraiment détonnant cette saison. Il y a toujours ces imbroglions éternels avec Nate Solder. Hein. Depuis son arrivée à New York, on ne peut pas dire que l'opération a été un franc succès. Il y a les grosses déceptions, notamment Andrew Thomas sur le poste de tackle. J'en suis le premier peiné, vous imaginez bien, moi qui l'ai survendu lors de son arrivée à la draft. Mais c'est pas le seul. Will Hernandez sur le poste de garde, c'est très décevant aussi. Donc c'est vrai que les jeunes pousses dont on attendait éventuellement qu'ils arrivent à développer une escouade un petit peu à la peine, bah c'est censé devenir des cadres de ce groupe-là et ça fait quand même mince sur le papier pour encore une fois espérer protéger un quarterback qui joue gros cette saison. Donc forcément, en effet, c'est aussi ça qui me fait dire que c'est un point noir plus notable. Parce que ça peut clairement voilà, être hyper déterminant sur ce que donnera l'issue de cette saison 2021 pour New York.
Ils ont autorisé 50 sacks l'an dernier. Seuls les Eagles ont fait pire dans toute la ligue. Et je vous donne une petite stat made in NFC Est. Hein. Philadelphie, Washington, New York Giants, les trois pires lignes statistiquement la saison dernière. L'espoir, en effet, c'est un hypothétique retour de Nate Solder à son meilleur niveau, donc qui commence à dater hein, chez les Patriots. La progression d'Andrew Thomas éventuelle, mais ça sent quand même la cata, Lucas.
Oui, ça sent la catastrophe. Surtout que voilà, Greg a cité tous les joueurs, on a parlé, il a dit à quel point c'était dangereux, et en allant plus loin, je pense que vraiment ce sera ce qui va retenir cette attaque de performer. Autant on parlait des linebackers, et j'estime que la ligne des linebackers n'est pas au niveau des autres, mais elle peut être couverte par la ligne défensive, pardon, le backfield défensif. Je pense que voilà, ça peut, ils peuvent travailler autour de ça. Là, la ligne offensive, je trouve qu'elle est tellement faible que ça va tirer l'attaque vers le bas. Et on parlait de toutes ces cibles de Saquon Barkley, de Daniel Jones. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose qui va faire que l'attaque ne pourra pas performer aussi bon que soient les joueurs au niveau des skill players.
Ouais, ça semble être assez rédhibitoire. Hein.
Juste, si tu me permets, hein, juste une précision, faut rappeler que les Giants ont changé quand même de coach de ligne offensive, que ça peut avoir son importance. C'est un coach qui arrive de foot universitaire du côté de Louisville. Alors, certains connaîtront Louisville comme étant la fac de Mekhi Becton, hein, l'actuel left tackle des Jets. Ça a aussi été une des lignes les plus poreuses, je trouve, ces dernières années au rang universitaire. Donc, c'est pas ce qui me rassure totalement non plus. Voilà, c'est ça. C'est pas non plus. Voilà, faut voir comment ça arrive à bien se mettre en place. Mais là, en tout cas, sur le papier, je suis pas méga hypé sur cette online.
C'était pas, je vais dire une énorme bêtise. C'était pas la fac de Lamar Jackson.
Si. Bah, la fac de Jackson, de Bridgewater.
Bridgewater, je me rappelais, mais j'avais un doute sur Jackson. Peut-être qu'ils sont plus habitués à protéger un quarterback, tu vois, après son passage.
Ça, c'est gratuit.
C'est gratos. Bon, le facteur X, on va sur quoi, du coup? Moi, j'avoue que je reste sur Daniel Jones quand même. Bah, je sais que la ligne n'est pas bonne, mais il y a quand même des armes, et puis il doit bonifier la ligne au bout d'un moment.
Oui, bah il doit bonifier la ligne, en effet. Je pense que le problème, il est multiple. C'est-à-dire que déjà, un, il doit rassurer toute son escouade, ne serait-ce que déjà d'un point de vue sécurité du ballon. Ça lui a souvent été reproché. Là, il a un casting, encore une fois, autour de lui, en tout cas des skill players qui peuvent lui permettre justement de ne pas avoir à forcer son jeu. Encore plus si c'est Saquon Barkley, je me répète. Donc, il faudra voir exactement la tournure que ça prend. Mais si on voit qu'il arrive à déjouer alors que pourtant, il n'y a plus... comment dire ça? Alors que c'est plus forcément le joueur dont on attend des miracles sur le jeu au sol, etc., etc. C'est sûr que ça va être à son discrédit et ça peut en effet amener New York à reconsidérer le poste de quarterback en vue de la saison prochaine.
Daniel Jones pour toi aussi, Lucas, ou t'as autre chose?
Non, moi j'ai mis Saquon Barkley. Pour être honnête avec vous, j'essaye de ne pas mettre un quarterback dans le facteur X, dans le sens où je me dis que chaque équipe, le quarterback est le facteur X. Maintenant, vous avez vraiment raison sur Daniel Jones parce qu'il peut faire la différence selon son niveau de jeu. Mais j'aime bien voir le running back qui revient de blessure en tant que facteur X parce qu'on le sait, quand il est à son meilleur niveau, il est très fort, Saquon Barkley. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à revenir à son meilleur niveau? C'est le genre de joueur qui est capable de rendre une ligne offensive mauvaise, bonne, si lui-même il est à son meilleur niveau, il est capable d'enlever la pression du quarterback. Maintenant, à l'image de ce que je disais sur Christian McCaffrey tout à l'heure, enfin il y a quelques jours, c'est une question, est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau ou pas? S'il le fait, ça peut aider grandement cette attaque. Maintenant, s'il est blessé de nouveau ou pas, ça sera compliqué. C'est pour ça que je le vois en facteur X.
Le calendrier, ça commence contre Denver, ensuite à Washington. Et ça enchaîne avec les Falcons, Saints à l'extérieur, Cowboys à l'extérieur, Rams, Panthers, Chiefs à l'extérieur, Raiders, repos en semaine 10, Buccaneers à l'extérieur, Eagles, Dolphins et Chargers à l'extérieur, Cowboys, Eagles, Bears à l'extérieur et Washington pour terminer. C'est pas, y a un petit passage New Orleans, Dallas, Los Angeles qui est pas vilain. Après, moi, il y a quand même pas mal de matchs prenables, hein. Denver, Washington, Atlanta, pour commencer. Ça peut être une possibilité d'en choper deux ou trois là-dessus. Bon, il y a le passage avec Kansas City, Vegas, Tampa qui est un peu plus compliqué. Miami, les Chargers, ça semble au-dessus. Bon, il y a des atouts avec leur bonne défense. Ils seront dans les matchs.
Ouais, moi, je t'avoue, je reste encore hyper mesuré sur Daniel Jones et je me dis qu'il y a bien les 2-3 matchs, à mon avis, où ça va pas tourner dans le bon sens. Je le souhaite, hein, aux fans des Giants. Encore une fois, c'est pas dire j'espère qu'il va se planter. Mais ouais, j'ai un petit peu peur. Après, ça reste une équipe, là, de ce qu'on en a dit, il y a des points forts, il y a des points faibles. Ça reste une équipe moyenne, entre guillemets, en tout cas, dans la hiérarchie médiane. Donc, je suis resté sur une fiche de 8-9 pour New York.
Pour ma part, ouais, je vois exactement ce que tu disais, Greg, une équipe moyenne. Du coup, on ne peut plus faire de 8-8 parce que maintenant, il y a 17 matchs. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu tellement du mal à me dire si c'était un bilan, ça allait être un bilan positif ou négatif. Ça peut tellement changer à un match près que je vais dire 8-8-1.
Ah ouais, carrément.
Oh, c'est beau.
Tu nous annonces les matchs nuls, toi.
Je l'attends.
Respect. Bah, écoutez, vous voyez, j'avais mis 7 et j'étais en train de me dire que j'étais optimiste. Mais...
7-10, ouais, ça me choquerait pas non plus. Hein.
Je vais rester
en dessous, ça me paraît sévère, par contre.
Je vais rester à 7-10. Bah, je suis pas dans le rang de ceux qui croient à Daniel Jones non plus. Là, ça fait 2 ans, 3, bientôt 3. Ouais, je vais rester sur 7. Allez, 7-10. Et donc, pas de playoff pour cette équipe des Giants. C'est comme ça que se termine leur preview. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Version écrite de cette émission. Vous retrouvez plein d'articles, évidemment, sur tdactu.com. Pour les réseaux sociaux, @tdactu sur Facebook et Twitter, @tdactu en entier sur Instagram. Merci encore une fois de nous suivre. On vous dit à demain pour une autre preview. On peut spoiler. Demain, c'est les 49ers. Ce sera encore avec Lucas Vola et Grégory Richard. Je vous remercie, messieurs, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code PROGRAM.